Mise en route des systèmes informatisés. Lancement de la causerie en mode confiné. Accrochez-vous, pandémie ou pas, votre émission est là.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bienvenue dans la 364e causerie, une causerie un peu particulière parce qu'enregistrée à distance. On va revenir sur le pourquoi on est enregistré et pourquoi on n'est pas en direct. Donc on va déjà vous dire qu'on est samedi, donc la veille de la diffusion du dimanche. Et oui, parce que la causerie c'est tous les dimanches de 22 à 23 heures sur Radio Canu, même quand il y a un couvre-feu. C'est pas balèze ça? Alors si tu veux nous joindre, c'est lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com. Si tu veux aller sur le blog, c'est
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Et oui, il y a les mêmes petits défauts techniques que quand on est en direct, c'est pas merveilleux.
Sauf que tu nous as même pas présenté.
Voilà. Ah oui, parce que vous voyez, j'ai oublié de vous présenter. Alors, ce soir.
Le mec, il croyait qu'il était tout seul.
Ce soir, autour de la table, nous avons donc Jean-Yves.
Bonsoir.
Clara.
Bonsoir.
Georges.
Bonsoir.
Et moi-même.
Et donc Fab.
Voilà.
Qui nous a oublié.
Oui, je vous ai malencontreusement oublié, mais c'était parce que j'ai le stress de l'enregistrement. C'est pire que le direct.
Voilà.
Et donc, on va commencer déjà par un petit avant-propos et qu'on avait envie de donner, puis on mettra un peu de musique après. Donc, je te laisse y aller, Jean-Yves.
Allez. Et bien, effectivement, avant de continuer l'émission, hein, sous sa forme un peu plus habituelle, on voulait rappeler deux, trois petites choses. La première, déjà, c'est que Radio Canus, c'est une radio associative, une radio sans permanence, sans salarié, qui n'exploite donc personne. Et apparemment, aux yeux de l'État, lorsqu'il s'agit de couvre-feu ou confinement sanitaire nocturne, être un média associatif sans permanence, sans salarié, sans exploiter qui que ce soit, c'est pas suffisant, en fait, pour être autorisé à être en direct avec vous depuis les studios depuis le studio de Radio Canu. Pas suffisant, hein, pour être autorisé à être dans les rues, en fait, pour rejoindre le studio, en ce qui concerne les émissions de Radio Canu qui ont lieu entre 20h et 6h du matin. Bon, minuit, en fait, parce que Radio Canu, ça s'arrête à minuit, le direct. Donc, soit, on subit l'autorité de l'État, on sait aussi, Radio Canu, se débrouiller dans l'autogestion et dans l'intelligence de celle-ci, parce que ça arrive. Hein. Donc dans l'urgence, les membres de Canu nous avaient déjà permis de continuer la diffusion pendant le confinement, donc de mars à mai. Et on reprend les outils, on reprend la même technique et on partage le savoir. Et nous voilà donc sur les ondes. Pour notre plus grand bonheur, même si c'est pas en direct, et le vôtre, on espère aussi. Bon, et ouais, effectivement, on n'est pas en direct, l'enregistrement et le montage ne valent pas le son du direct, mais on fera avec. Le son, même de moyenne qualité, on pense que ce sera toujours mieux que le silence des ondes.
Et sinon, la mort de Samuel Paty, professeur tué parce que prof, nous oblige à rappeler nos combats. On voulait donc rappeler qu'on emmerde les haineux. Tous les haineux, de quelque obédience qu'ils soient nationalistes, religieux, régionalistes, des personnes qui pensent pouvoir agresser, assassiner pour leur cause, ne méritent que mépris. et luttent, le poing levé et la tête haute, contre leur vision réactionnaire du monde, de la vie. Là où ils aiment parquer les gens, derrière un drapeau, des frontières, un dogme, un dieu, l'identité, le tout dans la haine, nous leur opposerons la solidarité, l'entraide, l'émancipation individuelle et collective, la culture, la fin des états et des frontières, la sécularisation, l'égalité sociale et économique qui suivra la disparition des classes sociales. Et pour celles et ceux qui pensent qu'on combat le fascisme, le racisme, les intégrismes, la haine en se barricadant, en étant aussi réactionnaire que ce que vous dites combattre, pour nous, vous vous trompez, en agissant ainsi pour renforcer la bête immonde. Une pensée donc pour celles et ceux tombés sous les coups des haineux, ici, là-bas, partout. Notre patrie, c'est le monde, notre loi, c'est la liberté.
Ben ni Dieu ni maître, ni état ni patron. Et on vous propose de se retrouver après un petit titre de musique. Vous êtes de retour dans la causerie différée, mais toujours là. Et on vient de s'écouter Guidré avec le titre « Des grosses papouilles ».
Oui, faut gratouiller le dos des méchants, ils iront mieux après.
Ouais. C'est une manière de voir le combat.
C'est du Guidré, quoi.
C'est ça. Eh ben, c'est Fab, on va reprendre notre rythme habituel. Donc, c'est Fab qui va nous causer en premier. Toi, tu veux nous causer, je crois, d'un truc... petit peu has-been, non?
Ouais, je vais vous causer de l'athéisme. L'athéisme, ce truc has-been qui redevient un sujet. Alors, je vais rappeler quand même que ce qu'est être athée. Alors, athée, hein, je prends la définition officielle, attitude de quelqu'un qui nie l'existence de Dieu, incroyance religieuse. Ça, c'est être athée. L'athéisme, c'est une doctrine qui nie l'existence de Dieu. Cette position philosophique ne doit pas se confondre ni avec l'agnosticisme, qui est le refus de prendre parti dans le débat métaphysique, ni avec le panthéisme, qui implique que Dieu puisse exister partout dans l'univers et se confondre avec tout.
Ok. Voilà. Genre Dieu est partout, dans la fleur, le caillou et tout.
Exactement, bah c'est un petit peu ce qu'on appelle les courants chamaniques, okay. Qui voilà estiment que c'est terre-mère, tout ça qui est partout, okay. Voilà. Par exemple, donc l'athéisme peut se vivre sans antithéisme. L'antithéisme, c'est la lutte c'est la lutte contre la place de la représentation de Dieu dans la société, et ça peut se vivre aussi sans anticléricalisme, c'est-à-dire c'est la lutte contre toute forme de religion, secte institutionnalisée ou non. On peut être athée sans être anticlérical et sans être antithéiste. Mmh. Bon, moi j'ai une tare, c'est que je cumule les trois, c'est-à-dire que je suis athée. Et qu'en plus, je suis antithéiste et anticléricaliste. Comme ça, au moins, vous savez d'où je parle.
Voilà. Ta place est en enfer.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc, aux USA, les élections, là, vous savez, on en parle énormément, beaucoup lieu. Donc, en fait, l'athéisme est redevenu un sujet dans le cadre de ces élections-là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'aux USA, les athées ont fini par s'organiser. Voilà. C'est les élections, et moi j'ai découvert dans tout ce qui se passait autour des élections américaines qu'il y existait un courant lobbyiste et associatif américain regroupant des centaines d'associations. Et c'est pas un courant religieux, hein, mais c'est un courant athée. Voilà, alors plus large que ça, je vous le dirai après, voilà. Oui, aux USA, en fait, être athée est plus compliqué, et cela vous ostracise dans la vie de tous les jours. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. C'est vrai. Quelques exemples. Au Texas, un athée ne peut pas être nommé juge ou shérif. Voilà. En Caroline du Nord, il est interdit aux athées de se présenter à toute élection, par manque de moralité, au même titre que les tueurs en série, ou de pouvoir avoir des postes élevés dans l'administration. Même au niveau fédéral, hein, c'est-à-dire à l'échelle de l'État américain, de la nation américaine, les athées sont soumis à plus de contrôle de leur vie en cas de poste dans l'administration que les croyants. Sept États ont conservé dans leur constitution, donc je rappelle que les États-Unis, c'est une fédération d'États, hein, ils ont gardé dans leur constitution des articles qui déclarent que les non-croyants sont inéligibles à de nombreuses fonctions d'intérêt public, lesquelles seraient en France occupées soit par des fonctionnaires, soit par des professions libérales. Par exemple, les médecins. Il y a des États aux États-Unis où vous ne pouvez pas être médecin et athée. Voilà.
Et sous quelle raison?
Alors, je vais déjà donner les États. Okay. Hein, c'est l'Arkansas, le Mississippi, le Tennessee, le Texas, la Caroline du Nord et du Sud et le Maryland. Ce sont les fameux États appelés la Bible Belt. Vous savez, la ceinture de la Bible. D'ailleurs, le Maryland, il va plus loin parce qu'il étend l'interdiction aux jurés et aux témoins de procès. C'est-à-dire que si vous êtes athée et que vous êtes témoin d'un meurtre, par exemple, vous ne pouvez pas venir expliquer ce qui s'est passé car vous ne pouvez pas être témoin. Dans un procès, voilà, tout simplement, dans le Maryland. C'est merveilleux, n'est-il pas? Voilà.
Mais là aussi, pourquoi en fait?
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pour ces États, très clairement dans la Constitution, le fait d'être incroyant, c'est le fait d'être immoral. Et donc, comme vous n'avez pas de morale, vous ne pouvez pas participer à la vie de tous les jours. Alors je vous rassure, ces lois ne sont pas appliquées à 100%. Hein, voilà, il y a toujours des exceptions, des choses comme ça. Mais régulièrement, en fait, dans les journaux américains, on peut lire, par exemple, une prof qui a été virée parce qu'elle était athée. Voilà, c'est arrivé récemment dans le Maryland. Ou après une fête de Noël, les gens ont remarqué qu'elle ne fêtait pas Noël ou qu'elle ne connaissait pas les chants de Noël. Et on est venu lui expliquer que c'était pas la peine qu'elle revienne le lendemain parce que, comme elle était athée. Voilà, ils ne se sont pas dit qu'elle était d'une autre religion. Hein. Ils ont juste dit qu'elle était athée. Voilà. Mais elle était athée en plus, en l'occurrence. Hein. Et par exemple aussi, en Caroline du Nord, il y a un gouverneur qui s'est présenté, qui voulait être gouverneur, et on l'a invalidé, on a essayé d'invalider sa candidature parce qu'il était athée, ouvertement. Alors bien sûr, la Cour fédérale a dit « Mais non, vous pouvez pas, c'est impossible que vous... » la Cour fédérale, la Cour suprême de l'État a dit non, parce que quand même, à un moment donné, c'est une discrimination trop forte. Mais ça a joué, et lui, il dit, ça a joué non seulement sur le fait que j'ai pas pu me présenter, mais aussi sur le fait qu'on n'ait pas voté pour moi. Parce que le fait qu'il soit athée fait qu'on n'a pas voté pour lui. Voilà. Donc c'est intéressant de voir.
Ouais, non, mais alors je rebondis vite fait, mais moi ce truc justement d'immoralité, je sais que ça appartient pas non plus qu'aux États-Unis. Enfin, j'ai déjà pu avoir des échanges avec des personnes, etc., d'une certaine religion, enfin d'une croyance en tout cas, qui en fait te disait oui mais enfin vous les athées
vous avez pas de morale.
Vous avez pas de morale et en fait tu dis mais c'est terrible en fait comme si en fait le fait d'avoir une éthique n'appartenait qu'à des gens qui sont sous la pression de Dieu. En fait, je vous rassure, les croyants, on peut être athée sans Dieu et avoir une éthique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est hallucinant. Enfin, c'est.
Et donc, inversement.
Oui.
Oui, tout à fait. Et donc, comme le soulignent des associations, hein, le conglomérat d'associations dont je vous parlais, athées et agnostiques, aux États-Unis, le pire n'est donc pas d'être un fanatique religieux. Non, le pire, c'est de n'avoir aucune religion, ou plutôt de ne pas croire en Dieu. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a une journaliste de France 4 hein, récemment qui s'étonnait à l'antenne, ouvertement, des slogans qui se sont tenus dans les manifestations, qui étaient plutôt classées, je vous rappelle, par Donald Trump à l'extrême gauche et antifasciste hein, quand même. Elle s'est étonnée en fait de ce qui s'y passait. Alors elle dit, je la cite, « Étrangement, dans les manifestations antiracistes de ces derniers jours, on entend énormément d'appels religieux. Je peux donner comme exemple celui énoncé suite à la mort de George Floyd. » Et là, elle le cite. Le slogan, pardon. « Enfants de Dieu, prions pour avoir la rage contre l'injustice, prions pour avoir le courage de nous dresser contre les ennemis du peuple, prions pour que les élus retrouvent la raison. » Et elle est très surprise, en fait, que dans des courants plutôt à gauche, théoriquement, eh ben, en fait, on retrouve une très imprégnation de la religion à un niveau assez élevé, quoi. C'est une prière au combat, quand même oui. Pas non plus, voilà. Donc, c'est donc une emprise énorme du religieux et des religions qui a lieu aux USA. Et cela en fait plus une théocratie qu'une démocratie au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on est plus dans quelque chose qui fonctionne comme une théocratie, c'est-à-dire où on prend le religieux comme référence systématique, plutôt que comme une démocratie où on prend en fait la voix de la majorité comme référence, la voix du peuple, comme on dirait, pardon, comme référence. Donc les athées, confrontés à cela quand même, ont décidé de s'unir dans une union appelée « Accrochez-vous ». Humaniste, athée, agnostique, non-théiste, libre-penseur. Oui, je vais la refaire. Humaniste, athée, agnostique, non-théiste, libre-penseur. Alors on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas trouvé plus simple ? Parce que quand même, c'est un nom un peu à rallonge. Eh bien, c'est surtout pour être clair. Parce que comme le souligne un des membres de cette association, enfin de cette fédération, c'est une fédération de plusieurs associations, nous avons dû nous blinder sur les définitions car nous avons été infiltrés à un moment par l'église de Satan. Sous prétexte qu'ils ne croyaient pas en Dieu, et on leur a expliqué que c'est la religion le souci, pas seulement Dieu, quel que soit le nom que tu lui donnes. Voilà. Donc cette alliance, elle a été fondée en 2013. Hein. C'est assez récent, en fait, c'est pas si vieux que ça. Mais voilà, avant, il y avait plein d'associations à droite à gauche. Ils ont fait une fédération hein, en 2013. Elle est d'ailleurs soutenue par un riche milliardaire qui a pas mal fait parler de lui depuis les années 90 pour avoir contesté les lois qui discriminent les athées. Son nom, c'est Herb Silverman. Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce que Herb Silverman, il allait systématiquement dans les états de la Bible Belt pour se présenter comme gouverneur et dire qu'il était athée pour pouvoir obliger à ce qu'on pose, en fait, le fait que, c'est pas normal, voilà. Donc, il a été fondateur surtout d'un groupe très connu qui s'appelle les Secular Humanists, donc c'était les humanistes laïcs, et qui a, en fait, égrené un peu partout dans les États-Unis. Donc, c'est des gens, très clairement, qui prônent la laïcité aux États-Unis, hein. Faut être très clair, hein. C'est leur credo. Et très souvent, d'ailleurs, ils prennent la laïcité française, à la française, comme exemple d'une laïcité qui fonctionne. Voilà. Donc c'est sous son impulsion hein, que s'est fondée la Fédération humaniste, athée, agnostique, non-théiste, libre-penseur. Oui, je vais vous le redire plusieurs fois, selon ce que je trouve très joli. Donc depuis, les groupes partout, dans tous les États américains, ils se sont agglomérés ensemble, c'est-à-dire que plutôt que de rester des petites associations, ils ont fait des groupes un peu plus costauds, et ils ont dit « il faut qu'on lutte contre les discriminations liées au fait d'être athée ». Alors que ce soit par des réunions publiques, des manifestations, du collage, c'est-à-dire des affiches, hein, voilà, des actions en justice, le fait de se présenter aux élections ou à des postes qui leur sont interdits pour pouvoir provoquer des actions en justice, et aussi leur présence sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision. En fait, voilà, ils essayent d'être le plus visible possible. Leur but, c'est de rendre tout simplement les 42 millions d'Américains qu'ils représentent visibles. Oui, 42 millions d'Américains. C'est une minorité opprimée quand même.
Oui, c'est 42 millions sur
300 millions.
300 millions,
ouais, à peu près. Ouais.
Effectivement, c'est.
Donc du coup, hein, durant la campagne actuelle, ils ont mis sur le devant de la scène les discriminations subies par les athées en posant des questions dans tous les meetings locaux des partis politiques qui se présentent à la présidentielle américaine. Alors ça va, il y a les démocrates, il y a les républicains, mais il y a aussi les transhumanistes, hein, le fameux parti transhumaniste. Il y a aussi le parti de gauche dont j'ai perdu le nom, excusez-moi, mais voilà. Et en fait, ils sont allés dans tous les meetings volontairement pour poser les mêmes questions. Bon, très honnêtement, j'ai plutôt trouvé les réponses faites par les deux grands partis qui restent en lice aujourd'hui, mais c'est logique. Donc, chez les républicains, ils relèvent que la réponse la plus donnée est que ce n'est pas de la discrimination, c'est une protection de notre nation face à l'immoralité.
Ouais, et elle revient, l'immoralité.
Voilà, on retrouve l'immoralité, on retrouve la notion d'immoralité. Mais la fédération, donc, elle relève que chez les démocrates, les réponses, elles sont pas franches du collier. Et que souvent, on leur explique que froisser les croyants, c'est pas une bonne stratégie. C'est pas du tout ce dont ils sont venus parler. Ils sont pas du tout venus parler du droit au blasphème ou que ce soit. Ils sont venus parler des lois qui discriminent les athées. Comme le souligne Colin McLean, que je vous invite à aller voir sur YouTube, qui est membre d'une association qui s'appelle les Atheismom, les mères athées. Voilà. Cette réponse pour elle signifie que la simple existence des athées serait une cause de mal-être pour les croyants et que donc les athées doivent faire profil bas. C'est totalement aberrant. Voilà. Et elle fait un parallèle qui est très juste dans une vidéo où elle explique que c'est exactement ce qu'on demandait aux homosexuels, aux lesbiennes, aux gays, aux trans pendant des années. C'est-à-dire, comme vous choquez la morale, restez donc cachés chez vous. Voilà.
C'est ça.
Et elle fait un parallèle qui est assez juste. Voilà. John Farrell, hein, qui lui est un militant new-yorkais pour le droit d'existence de l'athéisme, oui, parce qu'on en est là, voilà, souligne que la réponse que lui a faite Alexandria Ocasio-Cortez, alors Alexandria Ocasio-Cortez, vous l'avez sûrement vu, il y a beaucoup de vidéos d'elle qui tournent parce que c'est une jeune militante démocrate qui a été élue au Congrès, elle est assez rentre dedans, elle se laisse pas abattre et tout, et lui, en fait, il avait un grand espoir, il s'est dit, mais elle porte toutes les discriminations, c'est celle qu'il nous faut pour porter la voix des athées discriminés aux États-Unis. Et là, il dit dans une interview qu'il a donnée au New York Times, elle m'a dit, les yeux dans les yeux, qu'être blanc et athée est un privilège. Je n'ai jamais compris cette réponse, alors je venais de lui exposer que justement, être athée engendrait des discriminations fortes aux USA pour les personnes concernées. Et puis, c'est réduire le spectre à l'idée que seuls les blancs seraient athées. Notre association est composée de toutes les ethnies présentes sur le sol américain, y compris des natifs américains. Je pense que AOC, c'est les initiales de cet élu, fait passer ses propres convictions religieuses très fortes avant toute autre chose dans ce débat.
Eh oui.
Voilà.
Parce que ça aussi, en fait, on oublie, c'est que les gens qui s'expriment ont aussi une position, comment dire, individuelle, en fait. C'est-à-dire que cette représentante politique, enfin, elle n'est pas juste représentante politique. Non, c'est-à-dire qu'elle est aussi une individu qui, potentiellement, est croyante, qui, potentiellement, va donc aussi voir les croyances, l'athéisme ou les athées comme un peu un problème qui font chier, quoi, et que, de fait, ils font chier pour rien, pour pas grand-chose, quoi. Sauf que si, justement.
C'est exactement ce qu'il souligne, c'est qu'en fait, on minimise le fait que ils sont ostracisés quand même ouvertement aux États-Unis et même au niveau fédéral, c'est-à-dire que toute la nation en fait est problématique pour les personnes qui sont incroyantes ou même agnostiques, hein, parce qu'ils expliquent que même les agnostiques, ceux qui disent moi j'ai pas envie de savoir si Dieu existe ou pas et je m'en fous, et en fait ils sont aussi ostracisés au même titre que les athées qui eux affirment que y a pas de Dieu, quoi. Voilà, c'est un peu
aux États-Unis il faut être sûr que Dieu existe.
Ils ont quand même écrit une God We Trust sur leur billet, hein. Donc ça aide pas, hein. Ça, voilà. Et ils jurent sur la Bible pour quand ils sont élus. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas une obligation. Non. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une obligation. C'est un choix du président qui est élu de jurer sur la Bible ou pas. Vous pouvez tout à fait aux États-Unis jurer sur la Constitution américaine. Donc vous n'êtes pas obligé de jurer sur un texte religieux.
Ouais.
Voilà. Donc on voit ce qui démontre que aussi bien Barack Obama que Donald Trump que leurs prédécesseurs étaient croyants. Il n'y a que 4 présidents américains qui n'ont pas juré sur la Bible et qui ont juré sur la Constitution. Pour représenter le peuple américain. D'ailleurs, en disant, il faut que je représente l'ensemble du peuple américain. Voilà. La fédération humaniste athée agnostique non théiste libre penseur, je la refais, voilà, a donc décidé de se monter en lobbying officiel à Washington pour peser un peu plus dans la balance. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils le disent, tout se passe à Washington. Il faut être à Washington, il faut avoir des bureaux de lobbyistes, de gens qui vont aller rencontrer les élus, tout ça, voilà. Donc ils ont mis longtemps, hein, mais ils se sont dit, c'est la seule voie qu'on a aujourd'hui pour peser un minimum. Mais aussi, en fait, de se lancer dans des grands meetings autour de l'athéisme dès que ce sera possible, après l'épidémie de Covid. Parce que là, ils sont un petit peu coincés, surtout aux États-Unis en ce moment. Mais aussi de renforcer leur présence sur le net, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont fait partie de ces gens qui pensaient que les réseaux sociaux c'était pas l'endroit où il fallait être pour militer. Et en fait ils disent mais non, c'est pas bon, parce que qui on a laissé parler sur les réseaux sociaux? Les fanatiques de Trump, les fanatiques de la Terre plate, les fanatiques de tout ça. Et ils disent mais il faut qu'on aille leur répondre, il faut qu'on aille pied à pied aller leur dire mais ce que vous racontez, vous avez le droit de le penser, c'est quand même pas terrible. Voilà. C'est leur idée. Et donc ils ont d'ailleurs eu une surprise, c'est qu'ils ont eu des porte-paroles assez inattendues. Ça a commencé avec Mira Sorvino. Alors, vous la connaissez peut-être pas. Moi, je ne la connais pas du tout, mais c'est une actrice qui, aux États-Unis, est assez connue. Je crois qu'elle a joué dans une série qui marche très, très bien. Et en fait, dans une émission, elle a balancé un journaliste qui lui disait « Alors, vous allez faire quoi pour Noël ?» Et elle a dit « Bah, rien, comme chaque année, parce que moi, je ne fête pas Noël. » Voilà. Et donc, le journaliste a dit « Ah, pardon, vous êtes juive ?» Et oui, parce qu'aux États-Unis, on peut balancer des phrases comme ça. Voilà. Et là, elle dit « Ah non, je suis athée. » Et en fait, elle a dit « Je suis athée. » Et à partir du moment où elle a dit ça, ça a commencé à poser un problème dans l'émission, et ça lui a posé un problème, y compris pour sa carrière. Sauf qu'elle ne revient pas sur ce qu'elle a dit, et qu'au contraire, elle en est aujourd'hui, elle promeut régulièrement le fait qu'être athée, c'est pas si grave, hein, quand même, voilà.
Non, et que c'est vraiment une lutte, quoi. Enfin,
Tout à fait.
C'est une vraie lutte.
Et Richard Dawkins, que vous connaissez, qui a écrit « Pour en finir avec Dieu », lui, il a un renouveau, en fait, en ce moment, notamment via YouTube, où il fait des vidéos, et via Facebook, où il fait des Facebook Live, pardon, je fais de la pub pour ces plateformes. Et en fait, c'est un vulgarisateur scientifique, et il a de plus en plus la cote, et notamment un de ses Facebook Live récents a obtenu plus de 700 000 vues en direct. Et il dit, il commence à peser aussi dans le débat. Et lui, systématiquement, il rappelle que de s'en référer à Dieu, c'est comme de s'en référer à une banane, ça ne coûte pas cher, mais ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on le voit, le chemin est encore long aux USA pour l'acceptation de l'athéisme et de la fin des discriminations, mais en tout cas, les athées aux USA s'organisent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Voilà. Mais vous allez me dire.
Et ailleurs.
Ailleurs. Et ailleurs dans le monde, il faut se souvenir qu'il y a 13 pays qui condamnent à mort l'athéisme et le fait d'être athée. Alors je vais les citer parce qu'après tout, il faut donner les noms des pays qui condamnent à mort. Il y a la Mauritanie, le Soudan, jusqu'à ratification de la nouvelle constitution, parce que la nouvelle constitution a priori retirera ça. La Somalie, le Nigeria, le Yémen, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, les Maldives et la Malaisie. Voilà. Au moins, vous avez des 13 pays où vous ne devez pas aller.
si vous y allez, voilà. Pas que vous êtes athée, quoi.
Alors, moi, juste pour la blague, parce que je l'ai fait tout à l'heure, aux Maldives, en tant que personne LGBT, je risque 10 ans de prison et des coups de fouet. En tant qu'athée, je risque donc la mort. Et accessoirement, en tant qu'anarchiste, je risque 57 ans de prison. Bon, je vais éviter les Maldives. Voilà, on va faire comme ça. Donc, dans le dernier rapport de l'ONU, mais aussi de l'International Humanist and Ethical Union, l'Union Internationale Humaniste et Éthique, il est souligné que les athées sont discriminés dans plus de 99 pays dans le monde, dont 6 en Europe. Parce qu'en Europe, il reste des pays qui pratiquent la loi contre le blasphème. Et en fait, si vous collez une affiche en disant « Je suis athée, Dieu n'existe pas », eh ben vous rentrez sous la loi du blasphème, vous risquez de la prison ou des amendes. Donc c'est une vraie discrimination de la non-croyance. Ouais. Voilà. Donc on le voit, hein, la discrimination des non-croyants, même si elle est souvent niée, elle est pourtant une réalité partout dans le monde. Même si en France, nous avons la chance de vivre dans un territoire les plus incroyants du monde, 45% d'athées officiellement en France d'après les dernières estimations et études, voilà. Et avec les agnostiques, ça fait 70% des personnes qui ne se reconnaissent pas dans une religion. C'est fou la place que prend la religion en France quand on voit le nombre de personnes qui ne s'y relient pas. Ouais. Voilà. Et 74% au Japon, d'athées.
Oui.
D'athées,
ouais.
Au Japon. Donc en fait, voilà, c'est les deux endroits au monde où j'aurais envie de vivre. Je plaisante. Mais en fait, cela, ça ne doit surtout pas nous rendre aveugles sur les discriminations et brimades qui sont subies ailleurs. La laïcité, ce socle minimal de la survie des esprits, n'est une réalité que dans une minorité de pays aujourd'hui. La sécularisation dans le monde, elle est extrêmement rare, en fait. Et c'est ce qu'il faut, il faut prendre conscience de ça. Donc nous devons porter, nous devons nous porter aux côtés de toutes celles et tous ceux qui poussent à la sécularisation des religions dans le monde, même si c'est qu'un premier pas, c'est un pas important. Mais aussi de ceux qui affirment haut et fort que l'on peut se passer de Dieu, de dogme, de croyances, de superstitions dans nos vies. Parce que si on les laisse tout seuls, en fait, on va vite les oublier. Et c'est un petit peu ce que nous disent beaucoup de gens, d'ailleurs, dans des pays comme ça. Ils nous disent, mais ce serait quand même bien que les athées du monde entier se donnent la main, parce qu'on se sent un petit peu tout seul. Vous voyez, voilà. Et d'ailleurs, même en France, hein, il est temps de réaffirmer cela face à la montée des religions dans nos vies. Je le répète, on est dans un pays où la majorité des gens ne se reconnaissent pas dans une religion, et où les religions, quelles qu'elles soient, prennent une place énorme dans le débat public. Il est temps de rappeler que de ne pas croire est un droit, que l'on peut sortir des carcans imposés par une famille ou une communauté. Il est temps de se serrer les coudes, en quelque sorte. Et comme le disait si bien l'ancien maire de Lyon, Edo Herriot, il est temps de se rappeler que si Dieu existait, eh bien, ce serait une sacrée erreur d'aller le voir en face, car nous irions vers le vide absolu. Voilà, c'est un petit tour de l'athéisme, mais ce sera pas le dernier. Et j'espère que, franchement, bah, ça vous pousse à réfléchir sur le fait que, bah, être athée, c'est avant tout être discriminé dans le monde, et il faudrait pas l'oublier. Voilà.
Ouais. Non, c'est hyper important. Je crois qu'on en a déjà eu parlé, je crois, un peu d'athéisme et autres. Et effectivement, enfin, c'est une vraie lutte. Et qu'encore une fois, il va falloir arrêter aussi cette notion d'amalgame. C'est-à-dire que dès que tu revendiques, en fait, le fait d'être athée, tu serais un fou haineux, face aux croyants.
Ah, pas du tout.
Jusque là, en fait, les fous croyants ou même pas croyants, mais qui déversent de la haine, ils sont souvent quand même affiliés à un dogme, en fait. Hein. C'est-à-dire que on peut prendre l'extrême droite nationaliste, etc. Elle aime quand même beaucoup le catholicisme, en fait. Donc quand ces gens-là même parlent de laïcité, n'y croyons pas.
Ben non, c'est clair.
C'est aussi ça, en fait. C'est-à-dire l'esprit critique, quoi. Parce que en fait, après, on en vient à des trucs où la laïcité, c'est un truc, enfin, dégueulasse, etc. Mais non, en fait, c'est pas parce que Marine Le Pen cite le mot de laïcité qu'elle-même est laïque, en fait, parce que je ne pense qu'elle l'est pas, en fait.
Non.
Elle est très copine avec les clergés les plus intégristes. Donc, là aussi, l'athéisme est une chose, que des personnes s'en servent est une autre, et qu'il faut le distinguo. Enfin, je pense qu'il faut vraiment
réfléchir. C'est pas de l'athéisme, c'est la laïcité dans ta
société. Oui, la laïcité, pardon. Oui,
jamais
pardon,
dit athée. Hein,
non. Mais justement, là aussi, ça va nous interroger pourquoi c'est jamais dit athée.
En fait, pour reprendre ce que disait un penseur algérien dans les années 90, dont j'ai perdu le nom, je suis désolé, je me le suis pas noté, mais il disait, il faut pas confondre, en fait, les athées avec des gens qui voudraient tuer les croyants. C'est pas du tout ça, l'idée. Il faut prendre les athées pour ce qu'ils sont, il disait, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie pour vivre. Voilà. Et il disait, c'est exactement la même chose que de confondre les islamistes avec l'islam. Il dit c'est un peu idiot, c'est faire le même amalgame, de partir que toutes les personnes incroyantes seraient des gens violents. Bah, il dit c'est aussi bête que de partir du principe que tous les musulmans seraient des gens violents parce qu'il existe des islamistes. Et je trouve que finalement ça, son parallèle est très juste.
Ouais.
J'essaierai de retrouver son nom premier.
Ouais.
Je l'ai plus.
On fait ça.
Voilà. On fait une petite coupure musicale. Georges, tu voulais ajouter quelque chose peut-être ?
Non, je suis quand même impressionné par la démonstration.
Bon, il fait des trucs bien, ça lui arrive.
Des fois, ça m'arrive. Allez, bah, sur ce, une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon?
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est pluvieux.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi.
Semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'es inventéré et chauffer, chauffer, bah t'entends les pulsations dans tes tympans, hein. Chanter, chanter, c'est comme encore écouter, écouter lundi méchant.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant, comme un lundi. comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.
Et vous êtes dans la causerie, mais la causerie enregistrée. Et vous êtes au 102.2 et sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter Gaël Faye avec Comme un lundi méchant. Oui, parce que là, je me suis dit quand même que demain c'est lundi. Et sa chanson Comme un lundi méchant, bah, elle colle quand même bien au fait que bah, quand vous écouterez cette émission, le lendemain, souvent, il va falloir se lever. Et ça, c'est vachement rude quand même. On continue cette émission. Jean-Yves, toi, tu voulais nous parler d'un livre qui a un peu marqué son époque,
ouais,
et qui est plutôt à connaître.
Ouais. Ouais, ce soir, je veux vous parler de du livre, donc du roman Une si longue lettre de Mariam Abba, qui est édité par les éditions Le Rocher dans la collection Motif. Alors bon, forcément, comme d'hab, hein, avant de parler du contenu du livre, je vais vous proposer une petite bio de l'autrice, et en même temps, en la voyant, je vous dis qu'elle est pas si petite, cette bio. Mais en fait, je trouvais que c'était intéressant, parce que c'est aussi... voir d'où on vient, etc. Enfin, c'est intéressant.
Poser le contexte.
Ouais, hein, c'est ça. Donc, Mariam Abba, hein, donc elle est née en avril 1929 à Dakar, au Sénégal. Et en fait, à la mort de sa mère, elle avait, je crois, un an en fait, c'est ses grands-parents maternels, surtout sa grand-mère, qui vont s'occuper de son éducation à Saint-Louis, donc un petit peu plus au nord que Dakar. Donc la grand-mère, hein, d'origine noble et très attachée aux valeurs ancestrales, hein, va jouir d'un ascendant assez considérable en fait sur sa petite-fille, donc Mariam Abba. Et le père de Mariama, Amadou Ba, qui lui aussi... arrive à avoir quand même de l'influence, en tout cas, sur sa fille, même si j'aime pas forcément cette notion d'influence, mais en tout cas, il est pas passif et dans la vie de sa petite fille. Et désigné, lui, il était désigné comme peu soucieux des traditions. Donc c'est un petit peu voilà, la bascule, enfin, la lutte entre la tradition et le peu soucieux des traditions.
Un peu libre penseur sur les bords.
Ouais. Ouais. En fait, il était taxé de progressiste. Donc c'est, je trouve que c'est toujours intéressant d'être taxé de progressiste, comme si c'était une tare. Donc voilà. Donc et un petit peu plus aussi sur son père, parce que c'est intéressant. Enfin, donc son père, lui, il était né en 1892. Il a été tirailleur durant la Première Guerre mondiale. Il a été aussi fonctionnaire, sous l'administration coloniale. Il a aussi été maire adjoint de Dakar et il a aussi été ministre de la Santé, toujours avant l'indépendance du Sénégal. Mais genre, pour le ministère de la Santé, en fait, il a démissionné même pas au bout d'un an. Donc, je pense qu'il doit y avoir des choses... Voilà. Et il a aussi été, en fait, le fondateur du journal socialiste L'Informateur Dakarois en 1952. Donc voilà, ça donne aussi un peu le cadre dans lequel Mariama Ba a grandi. Et en fait, c'est lui, en fait, c'est le père, donc, qui a insisté pour que... contre l'avis de ses beaux-parents, pour que, bah, justement, Mariam Abba, bah, soit inscrite à l'école française, et ce fut aussi lui qui bah, suivait de près les études de Mariam Abba pour qu'elle puisse les mener, et c'est ce qu'elle a fait, hein, à bon terme, en fait. Et donc, Mariama, après une scolarité brillante, etc., donc là, je vous reprends aussi un peu des trucs qui sont sur sa bio, donc après une scolarité brillante, en fait, à l'école des filles de Saint-Louis, elle a été admise à l'école normale des filles à Rufisque en 1943, et elle en est sortie diplômée en 1947. Donc voilà, hein, c'est... Et elle enseigna ensuite dans un quartier, dans une école du quartier de la Médina à Dakar. Mais le problème, c'est qu'elle a eu des problèmes de santé, justement, en 1959. Et de là, elle s'est éloignée, on va dire, de l'enseignement à proprement parler. Et elle a été affectée au service d'inspection de l'enseignement. Et en fait, aussi, sur un autre pan, bah, de la fin des années 60 et jusqu'à sa mort... en août 1981 à Dakar, elle a milité dans pas mal d'associations en fait de femmes. Alors je vais pas tout vous les citer, mais si vous tapiez Mariam Abba, vous avez une courte bio. Et enfin, elle a vraiment été dans pas mal de mouvements associatifs de femmes. Est-ce qu'on peut dire féministes? Je vous laisserai juger vous-même. Enfin voilà. Donc voilà. Et ce livre dont je vous parle ce soir, donc Une si longue lettre, bah, c'est le premier roman en fait de Mariam Abba. Elle a reçu un prix pour ce livre-là. Et son deuxième, c'est Un chant écarlate, lui a été publié en 1981. Et ben, comme je vous le disais avant, juste un peu, en fait, après sa mort. Donc voilà. Et aussi, petit truc important, c'est que, en tout cas à noter, c'est qu'une de ses filles, hein, c'est Mamkoumbia Ndiaye, elle a sorti une biographie de sa mère. qui s'appelle Mariam Abba ou les allées d'un destin, et donc les deux derniers livres, hein, donc Un chant écarlate et la bio. Je vais pas vous mentir, c'est très compliqué, voire impossible de les trouver en tout cas en France, mais c'est disponible si vous contactez les nouvelles éditions africaines du Sénégal. Cette maison d'édition peut vous les envoyer. Voilà. Donc, on peut peut-être quand même aller en venir au livre, quand même. Donc, je crois pas que je l'ai dit, mais ce livre, en fait, il a été publié, donc, Une si longue lettre, en 1979. Et il est écrit à la première personne, du singulier, ce qui donne déjà une autre psy approche du truc, en fait. Et en fait, ça nous plonge dans la lettre qu'envoie Ramatoulaye à son ami de longue date, Aissatou. Alors, l'élément déclencheur de cette si longue lettre, eh bien, c'est la mort du mari de Ramatoulaye, celle qui écrit donc son mari Modou, avec qui elle a eu 12 enfants. Donc, c'est aussi un moment, finalement, qui va amener Ramatoulaye, à partager ses souvenirs de jeunesse, de sa vie d'étudiante, et aussi ses réflexions avec son ami Aissatou. Un moment qui va aussi l'amener à aborder sa vie, tant sur le plan amoureux que matériel, économique, sa vie de femme, de mère, et aussi elle va partager ses observations finalement sur son environnement, la société, la famille, les traditions, tout ça. Et on comprendra aussi pourquoi finalement ces deux amis, Aissatou donc et Ramatoulaye, ben, elles vont s'éloigner, en tout cas physiquement. Et en fait, donc une si longue lettre, en fait, balaye énormément de thèmes, en tout cas, enfin beaucoup. Et je préfère le dire, hein, on n'est pas du tout dans une thèse universitaire avec une analyse. Non, c'est juste là, on a une femme en fait qui partage sa vie avec une amie. Donc on est vraiment, moi je l'ai appelé comme ça, c'est que ces thèmes sont abordés finalement dans un réel fictif. Parce qu'on a la fiction qui est apportée par les personnages, évidemment, Ramatoulaye, Aissatou, elles n'existent pas, et sûrement qu'elles existent finalement quand même un petit peu, mais c'est relaté au travers de la vraie vie, des traditions, de la société dans laquelle, finalement, vivait aussi Mariam Abba, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, quoi.
D'autant plus si sa grand-mère qui l'a élevée était très attachée aux traditions.
C'est tout ça, voilà. Donc, Ramatoulaye, hein, elle va parler de la polygamie qu'elle subira et que son ami Aissatou refusera. On a aussi la colère, la précarité, l'isolement, finalement, que provoquera et qu'imposera son mari par le biais de la polygamie. Et de son vivant, hein, mais aussi après sa mort, parce que ouais, en fait, c'est là qu'on comprend en fait que la polygamie, ça entraîne des choses du vivant du mari, mais aussi après sa mort, hein. Et c'est ouais, vraiment, c'est assez ouf, quoi. Enfin, ça, c'est dingue.
Parce que la polygamie, elle est coutumière en fait dans le livre, c'est ça, c'est une habitude.
Ah
qui
bah
est,
oui, ouais. Oui. Enfin, je veux dire, Aissatou a été, touché, on va dire, en tout cas par la polygamie, comme c'est le cas de Ramatoulaye, quoi.
D'accord.
Donc après, dire que toute la société pratique la polygamie, j'irai pas jusque là, mais on peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et encore, j'ai lu dernièrement.
Elle est courante, en fait.
Ouais, j'ai encore lu dernièrement des articles de féministes sénégalaises. Mais effectivement, elle disait, on est même dans un recul, en fait, par rapport aux années de Mariam Abba et de ce qu'elle a apporté, quoi. Donc voilà, c'est pas un truc qui est terminé, quoi. Polygamie, en fait, ça aussi, c'est assez impressionnant, c'est la polygamie, en fait, que ce même Modou, hein, donc le mari défunt de Ramatoulaye, il a accepté pour pas froisser sa propre mère. C'est mignon, hein, quand même. Donc, polygamie, hein, qu'il mettra en pratique en épousant Bintou, qui est une amie de sa fille. Donc, il y a 20 ans, un truc comme ça, quoi. Et donc vraiment, et là aussi, enfin, je vais pas tout vous dire, mais dans le livre, on se rend bien compte que Bintou, avant même que tout ça soit officialisé, parlait de ce vieux là qui lui payait des trucs. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment assez intéressant, quoi.
C'est un peu un sugar daddy avant d'être son mari, quoi.
Oui, sauf qu'elle savait pas que c'était de son mari qu'elle parlait. Ouais. Donc voilà, on comprendra aussi, et ça aussi c'est hyper intéressant, le système de caste. En fait, qui amènera, par exemple, le mari d'Aissatou, Moudou, à devoir viser plus haut socialement, hein, qu'une simple bijoutière, parce que Aïssatou est une bijoutière et évidemment on peut encore une fois la compter sur la mère de Maoudou pour trouver une femme de son clan, hein, parce que quand même la stature, la posture sociale, c'est important, en tout cas pour la mère de ce mec. Et voilà, et en fait il y a aussi derrière, enfin dans le livre, il y a aussi des discussions, des confrontations, j'ai presque envie de dire, entre Ramatoulaye et certains de ses enfants, dont une de ses filles, hein, qui ira cacher et qui lui dira, une fois qu'elle sort, que la polygamie sera officialisée, qui dira à sa mère, mais quitte ce mec, quoi. Alors qu'elle parle de son père. Action que Ramatoulaye n'arrivera pas à faire, en fait. Enfin, c'est un conflit, générationnel, conflit politique, parce que c'est des aspirations aussi différentes, etc. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Enfin, bref, on devine, je vais pas vous en dire trop, mais on devine, hein, forcément un personnage, une femme prise en étau, en fait, vraiment choquée de ça, entre l'envie de liberté, en tout cas de constatation des carcans et des problèmes que posent les carcans, les traditions, etc. Elle a aussi envie d'amour, mais avec un mari qui ne serait que pour elle, en fait, et elle a le droit, en fait, de le vouloir, ça aussi. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant et effectivement prise en étau aussi par rapport à la place dans laquelle la société, la famille et aussi évidemment bien plus largement enferme les femmes, en fait. Ainsi que le rôle de mère qui l'enferme là aussi, là où le père, lui, en fait, se posera absolument aucune question de Ramatoulaye et ses 12 enfants qu'il a eu avec elle, quoi. Mais aucune, hein.
En fait, il va la mettre un peu de côté, non, ou
On peut dire un peu, ouais, voire beaucoup même, en fait, hein. C'est presque, enfin, elle est presque niée, en fait, quoi. Et ses enfants sont presque niés. Enfin, il y a vraiment, c'est une violence subie et sur laquelle finalement. T'as pas grand-chose à dire, quoi. Si ce n'est peut-être de prendre la route qu'Aïssatou a choisi. Donc c'est aussi ça. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Et j'en étais où? Ouais, effectivement, parce que c'était la suite. C'était mais effectivement, les femmes doivent tenir, hein, ou pas, en fait. Elles doivent subir ou pas, en fait. Donc ça aussi, c'est il y a quelque chose de hyper intéressant dans cette discussion, parce que ok, le livre, c'est la lettre que Ramatoulaye envoie à Aïssatou, mais en même temps, elle va aussi citer des lettres que Aïssatou a pu écrire, notamment, par exemple, au moment où la polygamie est arrivée dans sa vie. Donc, c'est hyper intéressant. On est vraiment dans une dualité, dans quelque chose de, mais qui reste très respectueux, vraiment hyper respectueux. Parce que, ouais, effectivement, il y a une forme de respect, mais même presque d'admiration. Mais j'oserais peut-être pas aller jusque-là. Enfin, c'est à vous de vous faire votre avis. Mais justement, de Ramatoulaye envers cet ami, Aïssatou, qui, elle, a peut-être fait preuve peut-être plus de courage, même si je peux en entrer dans un jugement, mais peut-être qu'aussi la vie faisait que, enfin, elle avait peut-être pas 12 gosses, etc., donc c'est aussi différent. Mais pour la liberté, finalement, qu'elle s'est autorisée, en fait, qu'elle a pris, parce que personne voulait lui laisser de liberté, mais elle l'a pris, en fait. Donc c'est hyper intéressant, et que dans tout ça, il y a un vrai amour amical, et elle le dit, en plus, je crois, Ramatoulaye, elle le dit, je t'aime, mais parce que l'amitié, en fait, nous laissera peut-être souvent moins seul que l'amour marital. Et c'est hyper intéressant, parce qu'il y a vraiment il y a une histoire d'amour, quoi. Enfin bref, c'est un livre en introspection, avec un regard critique sur la société, sur la famille, sur les traditions, enfin voilà. J'espère en avoir dit assez, suffisamment en tout cas, pour vous donner le livre, donner envie de lire ce livre, en fait. Et qui, effectivement, enfin, tu le disais en présentation, Fab, c'est un livre qui est encore aujourd'hui une référence, en fait. Alors, on peut se dire, bon, il est enseigné dans les écoles, hein, mais que même en lisant, enfin, comme dit, je lisais certaines féministes sénégalaises d'aujourd'hui, ben, Mariam Abbas a été un vrai marqueur, en fait, parce que ça a été celle qui, finalement, au travers de son roman, de sa fiction, bah foutu le réel, en fait, sur la place publique un petit peu, quoi. Donc c'est voilà, donc je vous rappelle, le livre, c'est Une si longue lettre de Mariam Abba aux éditions Le Rocher et dans la collection Motif, et le livre vous le trouvez assez facilement, il coûte 7 balles, mais voilà, enfin c'est, je trouve que c'est intéressant aussi d'ouvrir nos propres spectres et nos propres lectures à travers le monde, quoi.
Eh bien merci Jean-Yves.
Mais de rien. Il m'a
donné envie de.
Bah, eh ben tant
en
mieux.
En plus, il n'est pas effrayant, c'est pas un gros pavé, hein,
non,
c'est un petit bouquin.
C'est ça, et c'est vraiment, on est dans une lettre, quoi. Donc on est vraiment dans, juste dans des échanges. Enfin, c'est un vocabulaire pas du tout. Enfin, je sais pas comment dire. Il est bien ce vocabulaire, mais on n'est pas dans un truc hyper soutenu. Ouais, c'est un truc hyper accessible et on plonge dedans. Enfin, vraiment facilement, quoi. Enfin voilà, c'est une part de vie. Enfin voilà, j'espère vous avoir vraiment donné envie.
Moi, je le lirai, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça démontre la force de la fiction. Souvent, on néglige à la force des romans, de la fiction, des choses comme ça. Et en fait, je crois que la fiction, souvent, est parfois plus efficace pour passer une idée que, comme tu le disais, une grande thèse ou des choses comme ça qui sont parfois illisibles ou incompréhensibles. Et c'est drôle parce que par le plus grand des hasards, je lisais une interview de Margaret Atwood et elle cite Maria Maba et elle dit, voilà, c'est elle qui m'a donné la preuve que la fiction pouvait être aussi... percutante, elle disait, que n'importe quel livre politique. Et je vous rappelle que Margaret Atwood, c'est celle qui a écrit La Servante Écarlate, et elle sait de quoi elle parle en termes de fiction qui peut marquer. Et donc c'est intéressant parce que voilà, on voit que au-delà de tout ça, c'est que ça marque effectivement le Sénégal, Dakar, mais ça marque le monde entier, parce que finalement les livres appartiennent au monde entier. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait ça se partage et c'est beau.
Et alors je fais un petit. Mais en plus, effectivement, qui plus est, quand on se positionne dans une notion de enfin, comme je pense, on se positionne nous dans l'émission, mais que en fait les luttes, elles appartiennent pas à un endroit. En fait, on peut aussi nous prendre part, ou en tout cas s'intéresser à des luttes et être aux côtés d'eux, pas faire la lutte pour je sais pas quoi. C'est justement prendre part en étant à côté dans les luttes, quoi. Enfin, c'est hyper intéressant. Enfin bref, avec plaisir. Et ben donc on passe à de la musique.
Toc toc, puis-je entrer? Non, je blague, la réponse m'importe peu. Je tague ma voix de verre, j'essaie de clamer mes voeux. Même si, pour ça, il me faut arracher la parole. Car las, je suis de ces jeux de rôle et de cache-cache avec cette société. Bientôt 30 ans, célibataire sans enfant. Et jamais ma voix n'aura autant compté. Car je suis de ce monde-là et je poétise le changement. Au-delà des vers et des figures de style, je poétise le possible. Quand je vois à chaque coin de rue la bêtise prendre racine, la déshumanisation luire dans les yeux des gens, le mal est profond et rien n'arrête la machine qui bat à plein régime alimenté par le monde faible et malade. Ces pensées malsaines, fanatiques qui disent que toutes doivent suivre des identiques chemins, alors que les destinations ne sont pas les mêmes et toutes les mains peuvent gagner du pain. Ne me récitez pas de sourate ni de numéro d'alinéa. Ne me sortez pas la Bible, encore moins la Torah. Ne me parlez pas d'athéisme ni du Bouddha. Je ne vois que la loi de la jungle et des animaux en rut. La foi en rupture de stock dans les cœurs noirs. Des hommes qui violent des malades mentales tard le soir. Qui font des bâtiments inachevés, le témoin des vies arrachées, étouffées, tachetées de gouttelettes de semences lâches. Mais sache que jamais ma voix n'aura autant compté. Camper ce décor désastreux sur le papier, faire suer le sang de mon encrier. Ce monde-là m'a tellement rendu blasé que j'ai peur que si j'enfante un jour, mes gosses ne se fassent bouffer. Car cela n'arrive pas qu'aux autres. L'injustice devrait être combattue par tout le monde. Elle se propage comme la mauvaise herbe. Mais pourquoi plus personne ne désherbe sous son pied? Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise le possible. Je suis de ce monde-là. Je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise l'impossible. Les bourreaux sont protégés dans la cour familiale et que tu vois le cercle qui était censé te défendre, t'accuser. Toi la victime, qui sait, peut-être que tu l'aurais aguiché comme si quelque chose pourrait justifier le viol. Non, on t'a volé ta vie, ton droit de dire non. Non, ton corps n'est pas un objet, tu as le droit comme bon te semble d'en disposer. Et non, tu n'es pas responsable de ta famille ni de ses réactions. Elles devraient t'épauler et passer à l'action, car tu es leur fille et non un paillasson. Tu as le droit de t'habiller comme tu veux, de t'exprimer et surtout de dire non. Et oui, il faut éduquer les filles et les garçons. Arrêtons de déplacer les débats. Qui peut cautionner des ébats sur un bébé de 4 mois? Dites-moi, par hasard, quand allons-nous éteindre nos caméras? Quand allons-nous arrêter de nous comporter comme des scélérats? De collecter et de partager des données personnelles? Quand allons-nous arrêter d'atteindre à la dignité humaine? Arrêter de remplir le grenier des réseaux sociaux à ras-bord. Rien ne s'efface définitivement. Une fois que ça rentre, ça sort difficilement. La société a besoin d'être soignée. Elle ne jouit plus de toutes ses facultés mentales. Elle est fatiguée et son cœur en métal est en train de rouiller. Le bateau tangue, mais quand les gens ont faim, ils donnent au chat la langue, car ils n'ont plus peur de mourir noyés. Le mal est profond, ses racines marchent dans le monde et ses germes ont même éclos dans l'enclos du roi. Pendant que les moutons de Panurge broutent, l'ignorance et l'indifférence à pleines dents. Je suis de ce monde-là, je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise le possible. Je suis de ce monde-là, je poétise le changement. Au-delà des vers, des figures de style, je poétise l'impossible.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de la Causerie comme tous les dimanches soirs de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter un titre de Samy Rafal, c'est le titre Ras-le-bol, qui est issu de son EP Intro, et vraiment artiste sénégalaise que je vous conseille vraiment. Enfin, je l'ai découverte en faisant, enfin voilà, mes petits voyages sur Internet, et je trouve finalement qu'il y a une sorte de continuité, en fait, c'est peut-être idiot ou peut-être, mais entre l'œuvre de Mariam Abba et finalement Samy Rafal, qui aborde dans cet album des problématiques plus qu'importantes. Voilà, Samy Rafal, Ras-le-bol.
Moi, je voulais te remercier parce que je l'ai découvert grâce à toi. Voilà, parce que on va se dire un truc, des fois on découvre des choses comme ça en faisant la causerie, là. Et alors moi j'adore parce que c'est une slameuse, oui. Parce qu'elle slame en fait, comme vous avez pu l'entendre, mais alors elle a une écriture ciselée, mais alors il y a des fois faut réécouter parce qu'il y a presque... Il y a presque des fois l'envie de par la répétition de créer des choses, voilà. Et vraiment moi j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, donc je vous la conseille aussi.
C'est ça.
Vivement.
Et ben nickel.
Et ben on arrive à la fin de l'émission,
ouais,
dis donc.
Mais, pas de bref.
Bah pas de bref, mais depuis le début, Georges attend.
Oui.
Il est là auprès au bout de la table, parce que vous le savez pas vous, mais nous on le sait qu'il est au bout de la table. Et il attend, il observe, il sait pas à quel moment on va lui dire qu'il peut parler. Et là il se demande à quel moment je vais lui donner la parole. Et bah c'est maintenant. Et Georges, qu'est-ce que tu
Merci,
voulais
Fabien.
Annoncer?
Alors, vous l'avez remarqué, je suis là en observateur ce soir. Je voulais voir comment se passe une causerie pré-enregistrée. Hein, en couvre-feu. Et je suis là aussi parce que ben, la semaine prochaine, moi j'ai envie de vous parler un petit peu de la planète Mars.
Cool.
Mars, qui s'est beaucoup approché de la Terre au cours de ce mois. Hein, Mars, c'est ce point brillant, rougeâtre qu'on voit le soir au-dessus de l'horizon est, tellement brillant que tout le monde peut le voir à l'œil nu, ce point.
Même en ville, on le voit.
C'est ce que je voulais dire. Parce que des fois, pardon, je te coupe, Georges, mais des fois, quand on rentre de la causerie et quand on marche vers chez nous, on lève la tête et on se dit « Oh tiens, c'est Mars !» Et voilà, c'est juste ça.
J'ai peur d'être responsable de cela.
Mais non, c'est pas un problème, c'est très bien, justement. Et donc, tu viens nous causer de la planète.
Pas trop de ce qui se passe à la surface de Mars. J'ai plutôt envie de vous causer de son orbite, qui est très particulière.
Eh ben, on verra ça, du coup, la semaine prochaine.
On causera orbite martienne.
Voilà. C'est cela.
Je me si tu voulais faire aussi un Mars et ça repart ou si on s'arrête là.
Pour moi, c'était, ça sera notre chronique martienne.
Voilà. Oh, c'est beau, ça. Les chroniques martiennes.
Il y a un livre aussi.
Oui. Et donc voilà, et ben nous on revient donc la semaine prochaine dans le même un peu mode bizarre qu'on a en ce moment, mais on est désolé, mais on est obligé un petit peu de faire comme ça, mais c'est un plaisir parce qu'on est quand même là et on est avec vous. N'hésitez pas à faire des retours sur le blog ou sur le mail si vous avez des remarques à faire sur le format, si le son n'est pas très bon, si vous n'entendez pas bien, ou même simplement si vous avez envie de nous dire bonjour parce que vous nous aimez bien. Voilà, vous avez le droit aussi. Et ben donc à la semaine prochaine et Georges veut ajouter quelque
chose. Oui, je voudrais rajouter une précision, hein, c'est que je ne vais pas vous parler de Mars pendant une heure, ça serait une petite rubrique, environ un tiers de l'émission.
Mais il spoil tout, alors que nous, on voulait juste vous laisser la surprise, mais bon, il est comme ça, il divulgage. Je vous le dis, moi qui le connais bien, il fait pareil avec les films, donc n'en parlez pas avec lui. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Et on se quitte avec quel titre?
Et on se quitte avec un titre choisi par Clara.
Bah oui, on se quitte avec Rammstein et le titre Ohne Dich.
Eh bien, au revoir.
Eh bien,
à bientôt,
au revoir.
Bientôt.
Salut, des bisous. Ciao.
Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Auf den Nesten in still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein. Fällt mir, ach, so schwer.